Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Elles sont un peu sous respiration artificielle jusqu'à présent. Les négociations sur le nucléaire iranien continuent, mais il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elles basculent d'un côté ou de l'autre. L'élection, il y a quelques jours, d'un dur du régime à la présidence iranienne et sa fermeté affichée soulève quelques inquiétudes, mais les partis ont sans doute intérêt à faire baisser la tension. Pour Téhéran, il est urgent de lever les sanctions économiques qui sont très douloureuses, tandis que côté américain, un retour dans cet accord dénoncé par Donald Trump permettrait de concentrer les efforts vers d'autres dossiers, la rivalité avec la Chine par exemple. L'accord nucléaire iranien est-il mort et enterré ou au contraire prêt à ressusciter? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct et en ligne avec nous ce soir. Clément Terme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut universitaire de Florence et chargé de cours à Sciences Po Paris, auteur de « L'Iran et ses rivaux, entre nation et révolution », c'est aux éditions Passé Composé. Et aussi Benjamin Haute-Couverture, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et enfin, Azadeh Kian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris, autrice de « Femmes et pouvoir en islam », c'est aux éditions Michalon. On va faire le point sur ces négociations. Depuis la sortie unilatérale décidée par Donald Trump, l'Iran a progressivement repris son programme nucléaire. Pourtant, depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, il y a des discussions, Benjamin Haute-Couverture, dans quel cadre et sous quelle forme?
Bah écoutez, oui, il y a des discussions à nouveau. C'était une promesse de campagne du candidat Biden et qu'il a mis à exécution à partir du mois d'avril. Et donc, il y a plusieurs rounds de négociations qui ont commencé à Vienne, hein, de manière séparée, c'est-à-dire les Européens chapeautant les négociations d'un côté avec l'Iran et de l'autre avec Washington, avec un système de navette des uns aux autres. Et il se trouve que dans ces rounds de négociations, les dernières nouvelles sont plutôt bonnes, qui émanent de diplomates sur place, et ce même après l'élection présidentielle en Iran d'un dur du régime, vendredi dernier, le 18 juin. Donc les nouvelles sont bonnes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points techniques qui ont à nouveau été résolus, semble-t-il, un langage diplomatique commun qui a été trouvé, et puis globalement un mouvement vers un nouvel accord nucléaire qui est toujours en marche. Mais ça n'a pas arrêté, si vous voulez, depuis avril. En réalité, les nouvelles sont de plus en plus bonnes, d'une certaine manière, si l'on se concentre sur la bulle diplomatique de Vienne. Donc en réalité, de ce côté-là, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un accord va être trouvé parce que c'est l'intérêt commun de toutes les parties, des Iraniens, des Américains, des Européens naturellement, des Russes et des Chinois. Et donc, ça n'a jamais cessé d'être une réalité assez positive depuis la reprise des pourparlers à Vienne en avril. Et on a l'impression qu'il y a une accélération du tempo avec possiblement un accord qui serait à portée de main des négociateurs dans les semaines à venir, même s'il faut être très prudent, bien entendu, à la matière. Mais enfin, il semble que ce soit une analyse partagée par les Européens, par les Russes, par les Iraniens au moins, qu'on fait pas mal de déclarations dans ce sens depuis dimanche dernier. Mmh. Voilà, donc les nouvelles sont plutôt encourageantes globalement, avant de rentrer dans le détail.
Alors ça, c'est pour ce que vous appeliez, Benjamin Haute-Couverture, la bulle de Vienne. Il y a ce qui se passe aussi à Téhéran, Azadeh Kian. L'élection d'Ebrahim Raisi, donc un dur du régime, hein, et ses déclarations musclées par rapport aux États-Unis et un éventuel accord, est-ce qu'elles ne sont pas quand même un petit peu inquiétantes pour cette discussion?
Je ne le pense pas, puisqu'on sait que ces décisions sur la politique internationale et même régionale ne sont pas prises par le président, mais par le guide et un certain nombre d'autres institutions, dont la présidence de la République islamique, mais pas que par le président. À cela s'ajoute le fait que M. Raisi, après son élection, a déclaré vouloir continuer plus ou moins la même politique que le président Rouhani, c'est-à-dire les négociations continueront avec les États-Unis, mais il refusera de rencontrer le président Biden en personne, ce qui aussi a été la politique menée par le président Rouhani. Je ne vois pas effectivement beaucoup de différences ou de bouleversements concernant la politique internationale, en tout cas de l'Iran. Il ne faut pas oublier que les Iraniens ont absolument besoin que les sanctions américaines qui ont des effets extraterritoriaux contre les hydrocarbures soit levé, d'autant que Raisi, d'ailleurs, le président Raisi maintenant, il faut le dire, pendant la campagne électorale, a promis la création d'un million d'emplois par an, 4 millions de logements sociaux en 4 ans et j'en passe et d'autres. Et comment il va pouvoir ne serait-ce que répondre à une partie de ses promesses électorales si les sanctions continuent. Aujourd'hui, l'Iran ne peut vendre que 300 millions environ de barils de pétrole par jour contre 2 300 000 en 2018. Donc les caisses de l'État sont vides, le taux de pauvreté en Iran a énormément augmenté, les gens sont vraiment mécontents. Le taux de participation à la présidentielle iranienne a été le plus bas jamais enregistré dans l'histoire de la République islamique. Ils sont obligés de mener ces négociations.
Oui. Clément Terme, qui décide sur ce dossier en Iran? Parce que vu de l'extérieur, parfois c'est un petit peu opaque, disons. Qui a la main sur ces négociations? C'est vraiment l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution?
Oui, tout à fait. Comme l'a dit Azadekian, il est très clair que du côté iranien, le changement de président ne constitue pas en soi un obstacle absolu à la poursuite des négociations. La discussion porte plutôt sur l'idée, est-ce que finalement on va conclure un accord avant l'intronisation du nouveau président le 3 août la mise en œuvre de l'accord serait alors l'œuvre du président élu Raïssi, ou est-ce qu'il faut finaliser les négociations plutôt à l'automne pour montrer que les conservateurs sont plus à même que les modérés de parvenir à un accord avec l'Occident ou avec la communauté internationale sur cette question nucléaire. La question porte plutôt sur un accord qui serait plus fort et plus long, ce qui est l'idée de l'administration Biden, c'est-à-dire d'aller au-delà du nucléaire pour prendre en compte la perception des pays de la région, comme Israël ou l'Arabie Saoudite, sur le nucléaire iranien, ou prendre en compte le programme balistique de l'Iran. Et là, je pense qu'il y a une ligne rouge pour la République islamique pour ne pas étendre les discussions. Mais en soi, l'élection d'Ebrahim Raïssi ne change pas la politique globale du régime, puisque sur les missiles, par exemple, la seule possibilité de négociation, ça serait sur la portée des missiles iraniens, par exemple, 2000 kilomètres, qui est négociable avec les partenaires internationaux de l'Iran. Mais je vois pas la République islamique négocier ses capacités militaires dans une négociation qui se consacre principalement au nucléaire, comme c'était le cas en 2015. Donc on peut pas, je pense, étendre la durée de l'accord, ni étendre l'étendue des sujets négociés à Vienne. C'est plutôt là-dessus, sur les objectifs de l'administration Biden. Et donc il y aura une difficulté pour l'administration américaine pour ne pas faire Obama 2. Donc c'est ça plutôt, c'est la bulle de Vienne dont parlait Benjamin haute couverture, va rencontrer la réalité politique à Washington et la réalité politique à Téhéran. Donc ça sera difficile d'avoir un meilleur accord que celui de 2015. Donc j'anticipe plutôt un accord à minima, limité aux questions nucléaires strictement, pour organiser une désescalade militaire, donc ce qui est l'objectif de l'administration Biden dans la région, et une amélioration de la situation économique en interne, ce qui est expliqué à Azadeh, pour la République islamique.
Alors on va en parler évidemment, Benjamin haute couverture, actuellement la coopération de l'Iran avec l'AIEA, elle existe, il y a un accord technique pour maintenir les inspections à minima, comment ça se passe?
Oui, on est un petit peu sur le fil avec ça, parce que l'AIEA, comme vous le savez, est un peu à moitié aveugle sur les activités nucléaires iraniennes, du fait que l'Iran ne se conforme plus au protocole additionnel à son accord de garantie depuis la fin du mois de février dernier, et que l'agence de Vienne n'a toujours pas accès aux enregistrements vidéo des installations. Il y avait un accord technique provisoire de surveillance qui a été conclu un peu à l'arraché par le directeur général de l'AIEA.
Qui se termine aujourd'hui d'ailleurs et qui devrait être prolongé.
Oui. Ouais, c'est ça. Alors, c'est-à-dire qu'il a été prolongé fin mai jusqu'au 24 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, et aujourd'hui, on se demande s'il va être prolongé, mais a priori, il va l'être, puisque les nouvelles sont plutôt bonnes à Vienne, mais sans l'accès, même retardé dans le temps, d'ailleurs, à ces enregistrements, les enregistrements qui datent maintenant de fin février, l'AIEA ne serait plus en mesure de garantir la continuité des connaissances à propos du programme nucléaire iranien. Et c'est ça ce qui est crucial. Sur ce point, on attend évidemment aujourd'hui une décision qui émanera du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, qui est l'organe décisionnaire en la matière, ça viendrait de là, et il semblerait que ça va être le cas. Mais on l'espère en effet. Cela étant, sur le fond, Il y a deux choses à savoir. C'est d'abord que les plafonds d'enrichissement de l'uranium ont été explosés. Bon, mais ça, l'AIEA le sait, puisque l'Iran le revendique. Et puis, les quantités stockées qui ont explosé également, de la même manière, on le sait également. Mais autre chose que l'on sait moins, et sur lequel j'insiste un petit peu quand j'ai l'occasion de prendre la parole, c'est que le cours des négociations en cours à Vienne n'épuise pas le sujet du contentieux nucléaire avec l'Iran, parce que il y a toujours, clame l'AIEA, hein, quatre emplacements non déclarés qui ont été détectés, nombreuses particules d'uranium anthropogénique, hein, c'est-à-dire dues à des activités humaines en propre, par les inspecteurs de l'AIEA depuis 2 ans, et à propos desquels l'agence de Vienne n'a toujours pas reçu de réponse satisfaisante de Téhéran, dans le cadre des activités régulières de vérification de l'agence cette fois, et non pas dans le cadre de la renégociation de l'accord de Vienne. Et c'est un problème qui est pendant, si vous voulez, qui est parallèle, qui en fait est assez lié à ce qui se passe à Vienne, et qui est potentiellement préoccupant, parce que l'AIEA est une organisation technique, dont l'indépendance est reconnue par tous les États, y compris l'Iran, et que cette organisation, du coup, n'est pas en mesure de certifier le programme pacifique du programme nucléaire iranien. Donc, et la question qu'on est obligé de se poser, c'est si l'Iran continue de mener des activités clandestines. En tout cas, ça nourrit, si vous voulez, l'argumentaire israélien, sur le fait que tout cela n'est que du flan, de la poudre aux yeux, et qu'en réalité, depuis la fin réputée du plan Hamad en 2003, l'Iran n'aurait jamais arrêté la conduite militaire de son programme nucléaire. Donc il faut absolument avoir de la clarté là-dessus. Il faut que les Iraniens clarifient cette situation, parce que si c'était le cas, s'il y avait toujours des activités clandestines, bah évidemment, on comprend que l'accord de Vienne n'est plus l'enjeu principal de cette affaire. Donc l'actualité braque ses projecteurs sur Vienne, et c'est tout à fait compréhensible, mais en réalité, le problème nucléaire, pour l'essentiel, est toujours en Iran. Et il faut, de ce point de vue-là, que les Iraniens fassent toute la clarification possible sur ces quatre sites auprès de l'agence internationale, et pas auprès des Occidentaux, ni des E3, U+5, E+3, peu importe. C'est les inspecteurs qui doivent faire leur travail, et les Iraniens qui doivent répondre aux questions qui sont posées.
Voilà. Clément Terme, l'Iran, depuis qu'elle a repris ses activités d'enrichissement, les a repris de manière de plus en plus avancée. L'Iran a progressé techniquement. Et pourquoi renoncerait-elle à des progrès techniques qui ont été enregistrés depuis que l'enrichissement d'uranium a repris ?
Non, je ne pense pas qu'il s'agisse de renoncer à des progrès techniques. Tout simplement, c'est que dans le droit international, il y a une ambiguïté sur les ambitions nucléaires de l'Iran, puisqu'il y a des questions de double usage, donc des technologies nucléaires, et donc il y a des applications civiles et des applications militaires. Donc après, il y a la question des intentions de l'Iran qui empoisonne ce dossier, hein, depuis l'émergence de la question nucléaire iranienne sur la scène internationale en 2002. Donc tout le débat porte sur les intentions. Donc est-ce que ces intentions sont pacifiques, ou est-ce qu'il y a une dimension militaire au progrès nucléaire de l'Iran? Donc c'est très difficile, en fait, d'apporter une preuve. Et c'est pourquoi il y a ces débats techniques qui sont politisés de manière systématique quand le processus de négociation avance. Ou est-ce qu'on va pouvoir miser sur la diplomatie pour gérer les ambitions nucléaires iraniennes? C'est l'ambition de l'administration Obama, et c'est l'ambition aujourd'hui de l'administration Biden, pour éviter une confrontation militaire. Donc c'est ce débat-là, finalement, qui est posé aujourd'hui. Est-ce qu'on favorise la voie diplomatique, qui est la priorité de l'administration américaine, trouver une solution sans entrer dans un conflit militaire? Parce que la question, c'est quelle est l'alternative aux négociations de Vienne? C'est ça la véritable question. Et la pression maximale de Trump, qui a été menée, hein, après la fin de l'administration Obama, du deuxième mandat, n'a pas conduit à des résultats positifs, puisque au lieu d'avoir une réduction du problème nucléaire qui avait été obtenue par la voie diplomatique, face à la pression maximale des États-Unis, l'Iran a accéléré son programme pour envoyer aussi le message à la fois aux États-Unis que la politique de sanctions systématique contre l'Iran et à Israël, pour montrer que les opérations clandestines contre le programme nucléaire iranien étaient contre-productives et qu'elles conduisaient au contraire à l'accélération du programme. Donc il faudra voir si la diplomatie peut fonctionner une deuxième fois, ce qui est difficile parce que ce sont les Américains qui sont retirés de l'accord en mai 2018 et les Européens sont accusés par l'Iran d'avoir suivi les États-Unis sur la question des lois extraterritoriales américaines. Donc c'est un débat assez complexe sur le plan économique. Il faudra voir s'il y a une incitation économique suffisante pour que l'Iran parvienne à accepter un nouveau compromis, sachant que le premier compromis a été, disons, trahi par les États-Unis.
Azadeh Kian, pourquoi l'Iran a besoin d'un accord? Vous avez développé tout à l'heure des raisons économiques. Il y a aussi des raisons politiques. C'est quoi le balancier entre les deux? Bon, les gens... les gens, le chômage est en hausse en Iran, mais il y a aussi une question de fierté nationale. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd?
Mais avant de répondre à votre question, je voudrais juste préciser deux choses.
Allez-y, bien sûr.
C'est que, comme d'ailleurs Clément Terme l'a mentionné, il y a pratiquement une fois par semaine au moins des sabotages contre les installations nucléaires de l'Iran. La dernière en date a lieu hier. Donc, et visiblement, comme en tout cas les autorités iraniennes accusent Israël d'organiser ces sabotages. Ce que je veux dire, c'est que les négociations, effectivement, continue à Vienne et entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a pas d'autre choix que la solution diplomatique. Mais en même temps, n'oublions pas que visiblement, les Israéliens feront tout pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Deuxièmement, c'est au sujet des missiles balistiques iraniens. Les Iraniens ne cèdent pas, et là je suis tout à fait d'accord avec Clément Terme, mais le 15 juin, le jour même où l'OTAN a publié une résolution sur l'Iran, le guide Khamenei a annoncé que la portée des missiles balistiques iraniens n'excéderont pas les 2000 km actuels. C'est-à-dire que de ce fait, il a voulu aussi rassurer l'Europe que ces missiles balistiques ne visent pas l'Europe. Je pense que donc cela montre effectivement d'une façon tordue et indirecte, mais la volonté des Iraniens de dire on maintient nos missiles balistiques, mais on ne va pas augmenter la portée. Et on maintient l'enrichissement de l'uranium pour le moment comme un levier de négociation. Pourquoi? Parce que effectivement, si vous regardez, je pense les désaccords, mais là-dessus, Benjamin, autre couture, c'est mieux que moi, la négociation porte sur la levée de la totalité des sanctions, ce qui est demandé par les Iraniens, et la levée, disons, progressive qui sera cédée par l'administration Biden. Alors, Khamenei, le guide iranien, dit ne pas vouloir et ne pas pouvoir faire confiance aux Américains, puisque c'est Trump qui, comme ça a été dit, est sorti de l'accord sur le nucléaire en 2018, alors qu'il s'agissait d'un accord international et qu'il a de façon unilatérale imposé des sanctions avec des effets extraterritoriaux. Eux, ils disent aux États-Unis, levez les sanctions d'abord et nous, on va baisser l'enrichissement de l'uranium et on va rentrer dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Comment faire confiance aux Américains sans voir réellement et concrètement ce que les Américains vont faire? Donc, ils demandent aussi effectivement des garanties. Mais ce qu'on sait, encore une fois, c'est qu'ils ont besoin que ces sanctions soient levées. Je veux dire, ils ne peuvent pas tenir longtemps. Juste pour vous dire, par exemple, l'Irak est un pays ami de l'Iran dans la région et on connaît l'influence importante des Iraniens en Irak. Sauf que l'Irak a bloqué 5 milliards de dollars qui appartiennent à l'Iran parce que, les Irakiens disent, du fait des sanctions états-uniennes, on ne peut pas vous rendre vos 5 milliards de dollars. Pareil pour la Corée du Sud, pour l'Inde, la Chine qui est un pays qui ouais,
a... Il y a des avoirs qui sont gelés un peu partout, c'est ce que vous nous dites.
Un peu partout, mais la Chine a drastiquement baissé ses importations pétrolières de l'Iran, compensées par l'Arabie Saoudite. Donc les Iraniens sont vraiment dans une situation absolument difficile et doivent trouver une solution pour continuer les négociations.
Benjamin Haute-Couverture, qu'est-ce qui pose principalement problème de pays. C'est quoi le point dur de la négociation? C'est savoir qui va faire le premier pas?
Malheureusement, s'il y avait un point dur, ce serait simple. Mais malheureusement, il n'y a pas un point dur, il y a plein de points durs. La liste des questions techniques à résoudre est extrêmement longue. Et c'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir appris depuis dimanche dernier qu'il y en a un certain nombre de ces questions techniques qui ont été levées et que maintenant, c'est plutôt une acceptation politique de ce qui est levé qui est l'enjeu, ce qui permet effectivement de penser qu'il pourrait y avoir des efforts de part et d'autre pour qu'on trouve un accord. Mais ce qui fâche, si vous voulez, la liste est très longue, mais un, effectivement, toutes les sanctions ne seront pas levées par les États-Unis, c'est-à-dire que certaines relèvent strictement du programme nucléaire et balistique, et d'autres ont été prises au titre d'autres griefs formulés par Washington depuis fort longtemps. Ensuite, l'Iran pourra-t-il compter sur des compensations du fait du coût supporté par le pays depuis le retrait américain, la réimposition des sanctions en 2019 et 2020, qui est un coût effectivement absolument considérable. Et au départ, ça avait été une condition donnée par les négociateurs iraniens très forte. Ensuite, les Iraniens, et mettons-nous à leur place, ont à cœur de s'assurer que les États-Unis ne se retireront pas à nouveau d'un nouvel accord sur la base d'une seule décision unilatérale, ce qui est parfaitement normal. Donc là, il y a une procédure de snapback qui était un petit peu légère dans l'accord de JCPOA de juillet 2015, et les Iraniens souhaitent qu'un tel risque puisse être garanti par un espèce de mécanisme plurilatéral à l'avenir. Et puis, il y a d'autres questions pendantes qui sont liées, alors là, pour le coup, du point de vue, qui sont importantes du point de vue des Européens, des Américains, par exemple, mais aussi des Russes, d'une certaine manière, sont liées au manquement iranien eux-mêmes depuis 2 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des centrifugeuses de nouvelles générations, il y en a plusieurs, une nouvelle génération de centrifugeuses qui ont été développées et qui ont été produites depuis 2 ans. Les Américains, les Européens aimeraient que ces centrifugeuses soient détruites. Les Iraniens, naturellement, ne veulent pas les détruire. Qu'est-ce qu'on fait des connaissances acquises par les ingénieurs nucléaires iraniens dans de nombreux domaines? Ça, c'est une question extrêmement difficile à résoudre, en particulier la métallurgie de l'uranium. Ils ont fait des progrès considérables en 2 ans sur la métallurgie de l'uranium, mais ça ne se désinvente pas. Comment est-ce qu'on fait pour garantir que ces progrès puissent être d'une certaine manière, sinon réversibles, en tout cas encadrés? C'est compliqué. Mmh. Les États-Unis, on l'a vu tout à l'heure avec Clément Terme, attendent un accord plus long et plus robuste qu'ils l'étaient. Franchement, avec l'élection de Raisi à la présidence vendredi dernier, c'est très difficile à imaginer. Donc il faut plutôt considérer que l'accord qui est en passe d'émerger, si jamais ça émerge, sera lui aussi temporaire. Et donc la question qui se pose est celle de savoir si au cours du mandat de l'administration Raisi, les Iraniens seront disposés à reprendre un nouveau train de négociation dans les années à venir pour préparer un autre accord qui lui serait peut-être plus durable et qui prenne en compte d'autres volets, en particulier le volet balistique. Et dans ce cas, on peut éventuellement imaginer des garde-fous qui sont un peu plus précis. Alors, il y a effectivement la limitation des portées. C'est un sujet qui est traditionnel dans l'arms control, qu'il soit bilatéral ou non. Mais il y a d'autres choses. Il y a les notifications de lancement, par exemple. Les notifications de lancement, dans le code de conduite contre la prolifération des missiles balistiques de la haie de 2002, c'est une mesure de sécurité qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet, si vous voulez, de stabiliser un petit peu les perceptions du voisinage et qui empêcherait éventuellement cette spirale des dilemmes de sécurité entre voisins dans la région.
Ouais, ça fait beaucoup de choses.
Il y a des moyens, c'est peut-être un peu à la marge, mais il y a des choses qui peuvent se négocier quand même.
Clément Terme, je vais revenir vers vous, mais Azadeh Kian voulait réagir à ce que vient de dire Benjamin Haute-Couverture.
Non, je voudrais dire juste que Benjamin Haute-Couture a un moment parlé des scientifiques iraniens, effectivement, qui sont visiblement à la pointe de la technologie nucléaire. J'aurais juste rappelé que plusieurs d'entre eux ont été assassinés encore récemment, visiblement par là encore l'État israélien. Donc là, je pense que c'est trop facile, si vous voulez, peut-être de parler de nucléaire iranien, de l'accord qu'il faut absolument signer à nouveau, sans pour autant oublier ce que subissent aussi le nucléaire iranien, les scientifiques iraniens, et à cela s'ajoute aussi la question de missiles balistiques qui n'était absolument pas dans le premier accord sur le nucléaire donc conclu en 2015 et qui graduellement a été ajouté en fait est devenu en fait une sorte de réalité, comme si dès le départ les missiles balistiques faisaient partie de l'accord sur le nucléaire iranien signé en juillet 2015. C'est pas le cas, c'est un rajout. Et donc est-ce qu'on n'est pas en train justement d'empêcher l'accord sur le nucléaire, si c'est réellement le nucléaire iranien qui menace, si vous voulez, pourquoi parler en priorité aujourd'hui des missiles balistiques? C'est clair que les Iraniens n'ont pas
Malheureusement, au téléphone, c'est un petit peu compliqué de se couper. C'est pour ça que je vais donner la parole à Clément Terme, qui nous disait tout à l'heure que si accord il y a, il sera à minima, parce que la question, manifestement, c'est le périmètre de cet accord. Il y a des choses que les Américains voudraient rajouter dont les Iraniens ne veulent pas entendre parler.
Oui, et puis tout à fait, il faut d'abord rétablir la confiance. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que la sortie américaine en mai 2018 de l'accord provoque cette crise de confiance dans les négociations de Vienne. Donc c'est pas possible d'aller au-delà de 2015 avant de rétablir l'accord et d'obtenir une levée partielle des sanctions. Donc il y a le volet économique dont on n'a pas parlé, parce que les Occidentaux disent qu'il n'y a pas de volet économique à l'accord sur le nucléaire, mais du point de vue iranien, il faut une récompense économique, il faut une vérification pour une levée au moins pour pouvoir exporter le pétrole. Donc il y a un problème aussi financier, économique, comment reconnecter l'Iran à la globalisation économique. Et cela va se poser dans les prochaines semaines et les prochains mois, à la fois sur la durée de l'accord, en cas d'un retrait d'une prochaine administration républicaine américaine, dans l'hypothèse où Biden ne serait pas réélu, comment garantir la durabilité de l'accord.
Benjamin Haute-Couverture, l'opinion des Européens là-dedans, ils sont eux aussi victimes des sanctions extraterritoriales américaines et ils ont envie d'avoir un accord pour pouvoir reprendre ses relations avec l'Iran notamment.
Oui, alors juste un mot, un tout petit peu pour répondre à Azadeh, pour lui dire que je suis parfaitement d'accord en réalité. Et il ne s'agit pas d'une priorité, ça ne peut pas être une priorité. De toute façon, je vais vous dire, la question ne se pose pas parce que c'est un no-go pour les Iraniens. Il n'est absolument hors de question de commencer à parler de balistique ou de quoi que ce soit tant qu'on ne sera pas rentré effectivement à un accord qui est à minima à celui du 8 2015. Donc la question ne se pose pas. Je disais juste, est-ce que l'administration Raisi serait disposée au cours de son mandat plus tard à lancer un nouveau train de négociation, etc., etc. Donc, non, que les choses soient claires. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Donc, pas la peine de vouloir avoir des vœux sur le balistique, ce serait stupide et on perdrait du temps.
Il vous reste deux minutes pour les Européens.
Alors, rapidement, sur les Européens, c'est une question qui, vous savez, anime l'Union Européenne de manière assez homogène, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a un accord de tout le monde, je crois, des 27, pour qu'on revienne dans un accord de juillet 2015 stricto sensu, avant de commencer à penser à ce que pourrait être une suite. On a vu que l'administration française en particulier a pu revendiquer au cœur de la crise sous Trump davantage d'avancées, en particulier sur le plan balistique et sur le plan de la place de l'Iran dans la stabilité régionale, avant de faire un petit peu machine arrière et de se rendre compte au diapason de ce que disent les autres Européens, qu'il faut peut-être d'abord commencer par rétablir effectivement la confiance, revenir à un accord minimal et ensuite, step by step, étape par étape, voir ce que l'on peut gagner. Et de ce point de vue-là, il y a un intérêt européen qui est très clair et qui est assez homogène. Alors peut-être que jusqu'à présent, les Européens ont été un petit peu optimistes, mais les dernières nouvelles, encore une fois, qui sont plutôt relayées par les Russes cette fois, sembleraient être bonnes. Donc l'Union Européenne fait à peu près le job de bridge builder, quoi. Maintenant, sur les intérêts économiques européens en Iran, ils sont ce qu'ils sont, ils sont certes assez importants, mais enfin, c'est pas ce qui est déterminant dans la balance, si vous voulez, par rapport à ce qui est demandé, voire exigé par les Américains.
Hein. Donc pour vous, cet accord, il va être ressuscité. En quelques secondes, quelques mots, je vous pose la même question à Azadeh Kian. Cet accord, il va sortir ?
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les sanctions états-uniennes contre l'Iran doivent être levées, puisque c'est la société civile iranienne qui a été touchée par ces sanctions. Le régime islamique d'Iran a continué à ingérer dans la région, à travailler sur son programme de missiles balistiques et aussi le programme nucléaire. Oui. L'enrichissement de l'uranium 60%, c'est la société iranienne qui a été affaiblie. Donc il faut mettre un terme à ces sanctions.
Merci Azadeh Kian, merci à nos autres interlocuteurs Clément Terme et Benjamin Haute-Couverture. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a préparé ce débat du jour. Merci à Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Philippot. C'est un peu particulier ce soir, hein, parce que le débat du jour va faire sa traditionnelle pause estivale et vous retrouverez l'émission à la rentrée de septembre. Avec quelqu'un d'autre au micro, c'était la dernière en ce qui me concerne. On va se retrouver sur l'antenne, hein. ne vous inquiétez pas si ça vous inquiète. Merci à vous les auditeurs de nous avoir suivis. On sait que notamment sur les plateformes de streaming, le débat du jour est très écouté. C'était un plaisir, un honneur d'avoir été à la tête de cette émission pendant 4 ans. Merci à tous ceux qui m'ont aidé tout ce temps-là. Patrick Adam à la rédaction en chef. Merci à la direction de RFI pour sa confiance. Tout le service documentation de Vanadis Feuille avec une mention spéciale à Déborah Lepage qui m'a accompagné pendant plusieurs mois. Merci à tous les réalisateurs, en particulier Laurent Philippot qui est là ce soir et Jean-Philippe Thury. Merci, un merci tout particulier à Florence Ponce. Ce n'est pas elle qui était au micro, mais l'émission, bah, c'était un peu la sienne. C'est elle qui la montait. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site RFI.fr. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous. Bordeaux, Détroit.